dernière édition de l'économie en question, car voici l'été et dès lundi de nouveaux programmes pour vous accompagner sur France Culture. Mais un été qui ne laissera pas de répit pour autant à l'actualité économique et sociale en France, avec la mise en place de la réforme du Code du Travail en Conseil des ministres cette semaine, au Parlement fin juillet et pour adoption fin septembre, comme on le sait. Ni de répit en Europe avec les négociations sur le Brexit entamées lundi dernier. Déjà 4 séances de prévues entre juillet et début octobre, sans compter les nombreuses réunions d'experts. Et dans le monde, eh bien, beaucoup de dossiers ne devraient pas non plus rester en sommeil. Par exemple, les accords de libre-échange qu'Angela Merkel en Allemagne, elle vient de le dire, souhaite relancer, ou encore les discussions toujours laborieuses autour de systèmes de régulation bancaire et financière tout à fait indispensables. Et inutile de rappeler enfin le contexte particulier issu de l'arrivée de la nouvelle administration américaine et les incertitudes qu'il fait peser sur bien des domaines, des règlements climatiques en tête. C'est de ces enjeux mondiaux que nous avons choisi de parler aujourd'hui, et de notre rôle, j'entends celui de la France, celui de l'Union européenne dans leur évolution. France et Union européenne donc au défi d'une autre mondialisation. Restera à définir avec mes invités cette autre mondialisation. Aurélie Trouvé, donc enseignante, chercheuse, spécialiste des questions agricoles et porte-parole d'Attaque France. El Mouhmoud, professeur d'économie à l'Université de Paris-Dauphine, qui a fait paraître plusieurs ouvrages sur la mondialisation, le tout dernier, mondialisation, délocalisation des entreprises, c'est même la 5e édition. Repère la découverte et qui travaille beaucoup sur l'immigration, on en reparlera. Et enfin Philippe Martin, que nous sommes très heureux de retrouver, un fidèle de l'économie en question, professeur d'économie à Sciences Po, ancien conseiller économique d'Emmanuel Macron, lorsque celui-ci était ministre de l'économie, également pendant la campagne de l'élection présidentielle. Bienvenue à tous les trois, et je vous ai demandé à chacun de venir en fin d'émission avec un chiffre, on verra lequel. Bienvenue à tous, c'est l'économie en question, nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. Une autre mondialisation, c'est effectivement le titre que j'ai choisi. Peut-être ne donneriez-vous pas le même sentiment. Il me semble qu'on peut en parler dans les directions qu'elle est en train de prendre, dans les corrections que l'on essaie de lui donner, et dans les dérives un petit peu que l'on peut constater ici et là, et notamment avec les incertitudes autour du Brexit et de la présidence de Donald Trump. Je résume très très schématiquement. Quelle serait votre vision des choses, Philippe Martin, qui a fait paraître, ça m'a beaucoup inspiré ce sujet d'ailleurs, une tribune dans Le Monde cette semaine, c'était le 20 juin si je ne me trompe. Philippe.
Absolument. Je crois qu'une autre mondialisation, pourquoi le titre ? Parce que je crois que beaucoup de gens se rendent compte aujourd'hui que la mondialisation actuelle n'est pas soutenable. Elle n'est pas soutenable d'un point de vue politique et social, et donc il faut en changer un certain nombre de caractéristiques. Une des choses, je crois que les économistes en ont beaucoup parlé, et il y a eu beaucoup de travaux, c'est en effet la question des inégalités. Les inégalités se sont accrues, pas seulement à cause du commerce international, aussi des questions de technologie en particulier, mais la mondialisation, et en particulier la mondialisation commerciale, on le sait, fait des gagnants et des perdants. Que ce soit des individus, c'est souvent les travailleurs les moins qualifiés qui sont les perdants, au bénéfice des plus qualifiés, ou des territoires. Et ça, je pense que c'est un aspect, une dimension extrêmement importante, en particulier pour la France. Alors, la réaction normale des économistes, c'est on considère, en grande majorité, peut-être pas tous, mais qu'il y a des gains à la mondialisation, et donc on doit pouvoir redistribuer, compenser les perdants en taxant les gagnants, en faisant de la redistribution, de la compensation, mais aussi de la formation, etc., etc. Bon, il faut reconnaître, on a échoué. Peut-être ça les pays scandinaves ont à peu près réussi la mondialisation de ce point de vue, mais nous, la France, les États-Unis, l'Angleterre, on l'a pas réussi. Et d'ailleurs, je pense que le Brexit et Trump, c'est des phénomènes qui en sont la conséquence. Et ça vient à un moment où, en plus de la mondialisation commerciale qui crée ces inégalités, on a aussi la mondialisation financière qui fait que pour les gagnants, c'est encore plus facile d'aller optimiser leurs gains, c'est-à-dire de faire de l'optimisation fiscale ou de la fraude fiscale, pour mettre leur argent dans des territoires pour justement pas se faire taxer. Et donc je pense qu'on a ce paradoxe de la mondialisation qui actuellement n'est pas soutenable politiquement, parce que au moment même où on aurait besoin, comme le font d'ailleurs les pays scandinaves, de taxer les gagnants pour compenser les perdants de manière certainement plus efficace que ce qu'on fait aujourd'hui, eh bien ça devient de plus en plus difficile. Et donc je crois qu'il faut remettre en cause une partie de la mondialisation, et en particulier sur l'aspect fiscal. Il y a l'aspect environnemental aussi, mais je suis sûr qu'on va y revenir.
On y tient beaucoup, en effet. Vos analyses, je pense sur le constat, vous êtes à peu près d'accord tous les trois, hein, que vient de faire Philippe Martin, avec peut-être quelques nuances,
Non, le constat est récent, hein, des économistes, parce que pendant très longtemps,
des économistes,
ça a été quand même de dire que...
C'était pas faute de leur avoir dit.
Le gain global, effectivement, compense les pertes des uns. Et effectivement, ce dont on se rend compte, moi ça fait plusieurs années que je travaille sur ces questions, des effets non compensés des délocalisations.
Par exemple
Effectivement, on voit que malgré tout, ça reste les effets de la mondialisation sur les destructions d'emplois ou sur les réductions salariales demeurent quand même relativement minoritaires quand on les observe au niveau macroéconomique. Mais en fait, les territoires qui perdent sont des territoires qui perdent beaucoup. Énormément. Et comme il n'y a pas de mobilité du travail, Philippe Martin en parlait il y a un instant là sur les histoires de mobilité et de compensation, donc les gens restent scotchés sur place. Et par ailleurs, on a une extension des effets de la mondialisation dans un contexte un peu paradoxal. Dans un contexte où on peut penser qu'on est dans un processus de démondialisation parce que les firmes qui fragmentaient leur chaîne de valeur mondiale très très loin en Asie ont tendance à relocaliser, à recomposer dans l'industrie. Mais en même temps, ce qui est très intéressant, c'est que c'est les effets de la mondialisation s'approfondissent. Les perdants ne sont plus seulement les non qualifiés, c'est aussi des porteurs de tâches, d'exécution qui montent le long des niveaux de qualification. On peut avoir des ingénieurs, des techniciens, etc. Et puis enfin, on a une troisième extension des effets d'approfondissement de la mondialisation, c'est l'extension de ces effets dans les services, dans les activités de services, qui, je rappelle quand même, représentent 75% des emplois en France et seulement 12% pour l'industrie. Donc on a un peu les yeux rivés
sur l'industrie. On s'occupe un peu trop de l'industrie.
Et en fait, ce qui est invisible, ça a été dit pour la finance, mais la question des services est une question également centrale. Et donc je pense que les politiques publiques sont incapables, et c'est le cas en France, non seulement de résoudre après coup ces histoires, mais surtout de les anticiper. Et c'est là vraiment où la question de la politique publique doit être au cœur de l'interrogation.
On va en venir bien sûr aux propositions que vous faites les uns et les autres, hein, dans des domaines un peu parallèles. Celui d'Aurélie Trouvé, par exemple. Je vous ai présenté comme porte-parole d'Attaque. Hein, c'est important puisqu'on connaît votre combat, notamment pour les transactions financières. Ouais. Pas gagné encore. Hein.
Ça, c'est absolument pas gagné, on pourra en reparler, notamment parce que la France a une position actuellement qui est très inquiétante. Hein. C'est-à-dire que ça fait 5 ans qu'il y a des négociations sérieuses entre 10 pays européens pour une taxe sur les transactions financières. Manifestement, là, Emmanuel Macron et le gouvernement est plutôt en train de ralentir ces négociations puisqu'une réunion vient d'être annulée. C'est plutôt inquiétant parce que justement, je pense que ça représente une mondialisation qui pourrait être justement celle de la régulation de la finance, du reversement de l'argent de ceux qui gagnent beaucoup vers des causes communes, par exemple pour lutter contre le réchauffement climatique ou lutter contre la pauvreté dans le monde. Donc là, typiquement, une mesure qui demande un très fort volontarisme politique contre les lobbies financiers.
Mais contestée aussi, Aurélie Trouvé. Hein. La Cour des comptes dit que c'est pas évident du tout, que ça donne des résultats. Enfin, il y a des doutes émis quand même sur l'efficacité.
Il y a des doutes émis. En tout cas, il y a aujourd'hui, heureusement, de plus en plus d'économistes qui montrent que c'est tout à fait faisable, efficace, et que c'est en fait une question de rapport de force entre ces lobbies financiers. Et aujourd'hui, il faut être clair, notamment les places de Paris et de Francfort, qui voudraient en gros profiter du Brexit pour piquer les parts de marché à Londres. Bon, soit dit en passant. Donc il y a quand même beaucoup ces rapports de force plutôt que, il me semble, des questions d'efficacité ou de justesse de la mesure. Hein. Et là, c'est une mesure qui est clairement, qui est une très large part de l'opinion publique favorable. Voilà. Donc, je voudrais venir plutôt sur la question des effets de la mondialisation. Plus largement, enfin moi je suis très contente de voir que par ailleurs le constat soit de plus en plus généralisé des méfaits de la mondialisation telle qu'elle se fait aujourd'hui. Enfin, en tout cas, à Attaque, ça fait 15 ans que on tente de le dénoncer, mais du coup ça passe aussi par des mesures très concrètes, parce que aujourd'hui cette libéralisation des échanges se poursuit, notamment avec la multiplication de ce qu'on appelle les accords de libre-échange bilatéraux, qui ont quelque part pris le relais de l'Organisation mondiale du commerce dans l'ouverture des droits de douane et dans l'affaiblissement de la protection des frontières. Et là, clairement, il va y avoir une échéance pour le gouvernement qui est, et surtout pour l'Assemblée nationale, qui est la ratification du CETA, c'est-à-dire de l'accord Union européenne-Canada. Parce que, et c'est très important, c'est pas un petit accord parmi tant d'autres, parce que si cet accord-là, il est signé tel quel, hein, avec l'accord tel qu'il est là, ça sera quelque part un boulevard pour l'ensemble des accords de libre-échange. Et pour finir là-dessus, juste il y a quand même beaucoup de rapports qui sortent aujourd'hui académiques qui montrent que pour certains secteurs productifs, je pense à l'agriculture, ça peut être complètement délétère.
On rappelle que pour la France, mais elle n'agira pas facilement sans l'Union européenne, hein, il va falloir convaincre aussi ses partenaires, le président Emmanuel Macron avait dit pendant sa campagne, vous me le confirmez Philippe Martin, qu'il allait faire une étude avant de prendre une décision sur le CETA. Alors les choses ne sont pas très claires et je rappelle également...
Oui, il y a une commission...
c'est bien ça, qui est au travail et qui va...
place absolument. Et qui va
après laquelle il prendra une décision, mais il faudra encore convaincre, s'il renonce par exemple aux accords CETA, il faudra encore convaincre ses partenaires.
On va anticiper ce que va dire cette commission. Donc.
D'accord, et mardi 27 juin, c'est aussi une information. Angela Merkel s'est prononcée, elle, pour une relance des négociations entre l'Union européenne, alors cette fois sur le traité de libre-échange transatlantique, qui avait été, on s'en souvient, un peu secoué, mis au point mort par le président Trump au moment de son arrivée sur un programme aux accents très protectionnistes, il semble qu'il revienne en arrière. Protectionniste, je viens de dire le mot. Est-ce que justement, dans les mesures qui peuvent être proposées pour corriger la mondialisation, on peut arriver jusqu'à parler de protectionnisme du point de vue de l'Europe?
Non, mais c'est là,
Philippe Martin, Helmut Mood.
On aura un désaccord là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a deux manières, en effet, de se poser la question sur l'impact de la mondialisation. Il y a ceux qui, comme Trump, considèrent que la mondialisation, c'est mauvais en soi. C'est-à-dire que c'est un changement de paradigme. C'est-à-dire que c'est pas simplement que ça augmente les inégalités, ce qui est quelque chose que les économistes, depuis les années 20 ou 30, ont reconnu. Alors après, est-ce qu'empiriquement, c'est important ou pas? C'est vrai qu'il y a eu un débat et qu'il a évolué, en particulier du fait de l'entrée de la Chine ensuite à l'OMC. Mais vous avez d'un côté les économistes standards, entre guillemets, qui disent oui, ça augmente les inégalités, mais ça crée des richesses. Et donc la meilleure manière de répondre à cette question, c'est de ne pas revenir sur la mondialisation, mais de mettre des règles, de mettre de la compensation, de mettre de la redistribution, de la formation, etc. etc. Ce qu'ont réussi à faire les pays scandinaves, et je reconnais tout à fait que nos pays n'ont pas bien réussi à le faire. Et puis ceux qui disent non, il faut revenir sur la mondialisation, il faut mettre plus de tarifs, il faut surtout pas refaire des accords de libéralisation des échanges, il faut revenir sur la mondialisation, il faut mettre du protectionnisme. Donc là, c'est clair qu'on a un désaccord. Moi, je suis de ceux qui pensent que, en effet, le commerce international crée des richesses et qu'il faut trouver les moyens, en effet, pour mieux le réguler, pour avoir, par exemple, des instruments de défense commerciale, c'est sur l'anti-dumping, par exemple, il faut mieux le réguler sur les questions environnementales, et c'est pour ça que je pense qu'il faut
alors,
le
proposition
lier.
Proposition sur les questions environnementales, voilà. Jusqu'où peut-on aller?
Je pense qu'il faut lier les questions commerciales d'une part, et les questions environnementales et par exemple fiscales d'autre part. C'est-à-dire, je
ne
pense
pas
que
les dissocier.
Non, je pense que si on va vers de nouveaux accords commerciaux, il faut qu'il y ait des règles environnementales dans ces accords. C'est en partie ce qui est dans le CETA, hein, puisque dans le CETA, je vous rappelle que ça donne le droit de réguler en matière environnementale. Il y a chapitre 24 qui dit qu'il faut que les deux parties soient conformes aux engagements en matière d'accord international, donc par exemple l'accord de Paris, etc. Et puis, il faut aller plus loin sur les accords fiscaux en termes de coopération fiscale. Je pense que ça va être un des enjeux primordiaux du Brexit. C'est-à-dire que le gros accord de libre-échange qui vient vers nous, c'est l'accord avec la Grande-Bretagne.
Bien sûr.
Ils vont sortir de l'Union européenne et on va avoir un accord de libre-échange. Je pense que cette question en particulier fiscale, de coopération fiscale, pour éviter l'optimisation fiscale ou la fraude fiscale, parce qu'il y a une grande tentation que la Grande-Bretagne se transforme en paradis fiscal, il faut que ce soit au cœur des négociations.
J'ai vu la moue d'Aurélie Trouvé quand vous avez dit que c'était dans l'accord CETA, mais c'est dans l'accord CETA.
C'est pas contraignant dans l'accord CETA.
Non, ça n'est pas contraignant.
Je peux vous l'assurer, ça n'est pas contraignant. C'est un droit dans l'accord.
C'est une nuance importante,
là,
Philippe Martin, vous êtes d'accord?
Je peux vous donner des avis de juristes.
Ah, on croit.
Le chapitre 24, c'est ils doivent être conformes aux engagements internationaux, d'accords environnementaux internationaux, donc d'accord de Paris. Donc,
oui, sauf que vous avez plein d'autres articles et je peux vous démonter le truc et je peux vous assurer, on a demandé à des avis de beaucoup de juristes qui montrent parfaitement que ce droit environnemental, en fait, il est démonté tout au long du CETA par le biais d'autres articles et que finalement, il ne prime pas dans le CETA, malheureusement. Mais je reviendrai là-dessus.
Si moi,
je trouve que si vous voulez, dans ces débats, il faut vraiment être très clair sur le diagnostic avant de faire des propositions. Parce que il y a une illusion à croire que par le protectionnisme sur les marchandises, on peut régler ces problèmes de mésajustement. Et je pense que les choses ne se passent pas là. Et d'ailleurs, quand on discute avec ceux qui demandent des barrières commerciales, j'ai eu quelques débats avec des gens, je leur demandais, mais combien de droits de douane, par exemple? 25%?
Les gens d'attaque, par exemple, ou d'autres?
Attaque est beaucoup plus hétérogène que ça. Hein, mais vous voyez bien ce que je veux dire. Le souverainisme de gauche comme de droite, un certain souverainisme se positionne en faveur du protectionnisme sans vraiment qualifier les faits. Moi, je pense que c'est marginal. Je pense que la concurrence intra-européenne est bien plus importante en termes à la fois de concurrence fiscale, de concurrence sociale et de concurrence sur les paradis fiscaux, de taux d'imposition, que la question du commerce de marchandises stricto sensu.
D'où l'importance de ce fameux Brexit dont on vient de parler.
Exactement. Ouais. Je pense qu'il y a des choses à faire sur les travailleurs détachés. Dans mon livre sur l'immigration, je faisais quelques propositions. Il y a des choses à faire pour réguler ça. Ce qui est vraiment les facteurs de perte proviennent plutôt des déplacements d'activité, de la concurrence entre les facteurs de production, que de la question des flux de marchandises. Surtout qu'on est dans un contexte où précisément le commerce mondial connaît un certain reflux, lequel reflux est relativement lié à cette baisse de la fragmentation des chaînes de valeur. Donc on est dans une période où finalement focaliser extrêmement sur le protectionnisme, d'ailleurs combien on est, le taux de protection moyen il est 3% à peu près au niveau mondial, donc je veux dire qu'est-ce qui pourrait être fait pour aller plus loin?
Je pense mais sur le plan environnemental, je reprends la proposition, l'idée de Philippe Martin, il faut passer par des contraintes environnementales, sinon on n'y arrivera pas.
Contraintes environnementales, c'est quelque chose d'extrêmement important, mais là aussi, peut-être qu'on peut, dans le papier du Monde de Philippe Martin que j'ai lu, il fait confiance à l'OMC pour être, en quelque sorte, l'incitateur par des mesures.
Non, je fais pas confiance à l'OMC là-dessus. Je dis simplement qu'il faut que l'OMC soit impliqué.
Moi, je serais absolument d'accord pour que ça passe par l'OMC. Le problème, c'est que le constat, c'est que ni sur la clause sociale concernant le commerce international, ni sur la clause environnementale, l'OMC n'a réussi quoi que ce soit. Le problème, c'est un peu comme le disait aussi Aurélie Trouvé il y a un instant, c'est qu'on est dans un contexte de prolifération des accords régionaux, en même temps qu'on a une crise du multilatéralisme de l'OMC. Donc, à mon avis, que ce soit sur le plan fiscal, du taux de protection, du taux d'imposition des entreprises, ou que ce soit sur la question des paradis fiscaux, ou que ce soit sur la question de l'environnement, la contrainte doit être extrêmement forte, et j'ai peur que ça ne puisse pas passer par des incitations commerciales.
Mais du coup,
on va les trouver.
Oui, je suis d'accord. Du coup, je pense qu'il faudrait en fait une OMC pour vous dire que moi, je me dis pas protectionniste du tout, et je pense que Attac se le dit pas. On est pour une protection, si vous voulez, des citoyens et des marchés quand c'est nécessaire, mais en mettant les droits humains fondamentaux avant le droit de la concurrence. Donc, c'est renverser la hiérarchie des normes qui existent dans l'OMC, dans les accords de libre-échange. C'est-à-dire, ce n'est pas le droit de la concurrence qui prime. Ce sont les droits humains fondamentaux, la protection de l'environnement, la solidarité internationale. Ça, c'est très important. Et je pense que cette autre mondialisation, d'abord, elle doit être multilatérale. Et qu'il faut sortir absolument de ce processus de multiplication d'accords bilatéraux qu'on connaît aujourd'hui et qui, finalement, met dans un rapport de force beaucoup plus défavorable et plus faible. Je pense notamment, on n'en a pas parlé ici, mais aux accords de partenariats économiques aussi, qui sont de grande actualité avec les pays d'Afrique, Caraïbes, Pacifique, et qui sont pour le coup extrêmement combattus par un tas de mouvements sociaux dans ces pays-là, notamment les mouvements paysans, parce que ça va ouvrir leurs frontières de manière très importante, alors qu'ils n'ont absolument pas les moyens de tenir le choc face, par exemple, à nos agricultures ultra-subventionnées et qui n'ont pas du tout les mêmes degrés d'investissement et de moyens. Mais en tout cas, oui, il y a des défis à relever avec une autre mondialisation, comme vous le disiez, hein, l'environnement, évidemment. Mais je pense par exemple aussi à la stabilisation.
L'environnement, bien sûr. Pour bien fixer les choses, l'environnement, en clair, ça consiste à taxer les importations, par exemple, en fonction de leur contenu en carbone. Ça n'est pas clairement appliqué. Oui, ça n'est pas contradictoire avec ce que vous dites.
Par les normes. Mais ça, c'est très important. Et je vais prendre par exemple
Même chose d'ailleurs pour
l'exemple du CETA. Le CETA, tel qu'il est fait, et c'est pas moi moi qui le dis, il y a un rapport qui le dit sur l'accord transatlantique avec les États-Unis, mais qui
n'est pas le CETA.
Qui est pas le CETA. Mais n'empêche que les conditions sont quasiment les mêmes dans le CETA. Enfin, vraiment, on peut transposer ce qu'il y a dans le TAFTA au CETA. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un gros risque d'harmonisation vers le bas des normes sanitaires, environnementales, etc. Dans le cadre du CETA, via un certain nombre de mécanismes, je ne rentre pas dans les détails, mais notamment le forum de coopération réglementaire, il y a déjà des règles qui ont été touchées pour justement devancer ces accords transatlantiques. Par exemple, des règles de décontamination des produits animaux qui sont beaucoup plus strictes côté Union européenne. Donc, c'est déjà le cas aujourd'hui. On a déjà démantelé, fragilisé en partie ces normes. Donc, c'est pas non plus de la paranoïa. Mais surtout, je vais donner un exemple très concret. Si vous prenez la viande bovine et la viande porcine, au Canada, ce sont des élevages beaucoup plus concentrés, des très grosses exploitations pour la plupart, qui ont des normes sanitaires environnementales beaucoup plus faibles. Donc la seule façon de tenir face à ça, c'est soit de faire disparaître en partie notre production, soit de se tourner vers ce type d'élevage qui est pourtant aujourd'hui complètement décrié par les citoyens.
Philippe Martin.
Non, mais bon, enfin, on peut avoir un long débat sur le CETA. Moi, je ne crois pas que le CETA. Mais d'ailleurs, en partie, grâce aux ONG. Je pense qu'il y a eu une pression des ONG qui a été salutaire sur le fait qu'il fallait, en effet, contrer un certain nombre de lobbies industriels, agricoles. Ça, je suis tout à fait persuadé. Donc, le rôle des ONG dans la négociation d'accords commerciaux, elle est fondamentale. Et c'est ce qui a permis, justement, d'introduire un certain nombre de clauses dans le CETA qui, à mon avis, moi, me rassure, ne rassure pas. Y trouver, mais me rassure sur le fait que non, il n'y aura pas de. Et je pense qu'il y a une telle pression justement sur ces questions environnementales, sanitaires, etc. Et le Canada, n'exagérons pas, c'est pas non plus le pays. On ne parle pas de la Chine ou des États-Unis. C'est quand même des pays qui ont des préférences qui sont pas les mêmes que les nôtres, mais qui sont pas si éloignées. Moi, je reviens juste sur la question du commerce et environnement, parce que c'est vrai que là, il y a aussi deux manières de voir le problème. Il y a une manière qui est de dire, parce que le commerce international crée une externalité négative en termes d'environnement, simplement parce que ça fait du transport, de la pollution et des CO2, il faut diminuer le commerce. L'autre solution, c'est de dire, il faut taxer les émissions de CO2. Et donc, il faut avoir des... Il faut faire
systématiques.
Il faut taxer, il faut faire payer les pollueurs. C'est le problème, par exemple, du transport maritime et du transport aérien. Donc, il faut, en effet, qu'il y ait un accord sur ces sujets. Et c'est la question de la taxe d'ajustement aux frontières, ce dont vous parliez, c'est-à-dire le fait qu'en effet, il faut peut-être réfléchir pour les pays en particulier, et là je pense aux États-Unis, qui sortent du club de Paris, qui refusent d'avoir des engagements sur le réchauffement climatique, c'est difficile techniquement, hein. Je ne dis pas que c'est facile, mais je pense qu'il faut ouvrir ce débat sur le fait que on est un club qui, dans le club de Paris, qui on s'engage à un certain nombre de réglementations, d'efforts, etc., qui ont un impact sur notre compétitivité en particulier. Et donc, en effet, moi, je pense qu'il faut avoir une réflexion sur une taxe d'ajustement aux frontières qui taxe le contenu en CO2 d'un certain nombre d'importations, au moins ouvrir le débat, parce que je pense que ça signifie que ça... Il y a un danger, hein, c'est que d'autres pays suivent les États-Unis. Il faut montrer que ça peut avoir un coût économique aussi.
Et la question, je reviens un peu au titre que nous avions, France et Union européenne, on pourrait prendre le leadership dans ce domaine, sentez-vous, à la limite, c'est pas très important, mais
la France peut donner un effet d'entraînement dans ses intentions. Le leadership sur ces questions de climat et même aussi sur le commerce. On le voit bien dans les négociations actuelles sur la préparation du G20. Emmanuel Macron est allé avec un certain nombre de propositions qui sont pas toutes d'ailleurs acceptées facilement par ses partenaires, hein, parce que on est toujours un tout petit peu, alors là, accusez-nous de protectionnisme quand on parle de taxes d'ajustement aux frontières, il n'en a pas parlé hein, d'ailleurs, mais sur l'anti-dumping par exemple, on est tout de suite accusé d'être des protectionnistes.
Mentionnons évidemment la question des travailleurs aussi, qui concerne beaucoup Helmut Mood, on est encore dans le même domaine, hein, travailleurs étrangers.
Je pense en effet que la question intra-européenne est une question tout à fait centrale, et peut-être que l'effet du Brexit est salutaire de ce point de vue-là. Et je pense que sur la régulation fiscale. Je parle de la fiscalité sur les entreprises et sur les sociétés. Je vois que Trump aux États-Unis est bien favorable au protectionnisme et contre la mondialisation et contre la libéralisation et contre la liberté de circulation, contre l'immigration internationale avec son décret, etc. En revanche, la libéralisation est totale sur la finance et sur la fiscalité et sur le taux d'imposition. Donc on est ceux qui sont contre la mondialisation ne sont pas nécessairement ceux qui sont pour la protection des travailleurs. Et ça, je crois qu'il faut vraiment faire cette différence. Et moi, je pense qu'on est tout au début d'une réflexion sur comment, au sein de l'Union européenne, à l'intérieur de l'Union européenne, on construit ces protections. Ça fait très longtemps qu'on a fait un peu de déni sur la question des travailleurs détachés, par exemple. La France est non seulement un pays d'accueil, mais un pays pourvoyeur. Hein. C'est le troisième pays européen qui envoie des travailleurs détachés. Donc la problématique, c'est pas seulement d'interdire
ça. Ce qu'on ne dit pas beaucoup,
c'est,
en effet.
Oui, absolument. On en profite, bien entendu. Mais le problème, c'est vraiment des problèmes de respect du droit du travail, de normes du droit du travail, et c'est le problème du paiement des cotisations dans le pays d'accueil plutôt que dans le pays d'origine. Donc il y a des mécanismes de régulation sur les facteurs de production qui sont bien, pour moi, plus fondamentaux que
qui vont au-delà du commerce,
on a bien à faire des barrières commerciales, voilà.
Non, mais ça, merci Aurélie, trouver les dernières remarques.
Ouais, non mais je rejoins complètement, c'est-à-dire que il faut aussi que la France soit leader dans une proposition de régulation visant, je veux dire, le progrès social et écologique, mais aussi l'Union européenne en son sein. Et notamment la directive européenne sur les travailleurs détachés, qui est quand même un grand moyen de dumping social, hein, qui permet de gagner un tiers de coûts salariaux.
De non-respect des droits du travail, plutôt.
De respect des droits du travail. Je connais, parce que dans le secteur agricole et agroalimentaire, on a de plus en plus de travailleurs détachés. Mais pour le coup, effectivement, c'est une vraie question, comment l'Union européenne aussi, en son sein déjà, dans la mondialisation, en son sein, fait respecter, du moins, ou en tout cas, cesse le dumping social, fiscal et environnemental.
Voilà, nous avions parlé de défis. Il reste posé à cette fin d'émission. Merci pour vos analyses à tous les trois. On passe à vos chiffres. On commence avec Philippe Martin, tiens.
Oh ben c'est le thème « Faites attention aux statistiques ». Ou aux chiffres, peut-être. On parle beaucoup du déficit budgétaire en ce moment. C'est 3, c'est 3,2, c'est catastrophique. Si c'est plus que 0,2, que ce que...
Mais quand même, oui, on a pris une mauvaise nouvelle.
Oui, on en parle beaucoup. Bon, 0,2 de PIB, donc c'est dramatique. Hein, si on est... Bon, je rappelle juste que sur l'année 2014, on s'est beaucoup trompé sur ce qui s'est passé sur le PIB de la France. C'est-à-dire, en 2014, la première estimation du PIB, c'était plus 0,2. Ensuite, ça a été plus 0,6. Et la dernière estimation de l'ICI, c'est plus 0,9. Donc, je dis simplement, faisons attention à ces chiffres sur la croissance, sur le PIB et donc le déficit budgétaire en pourcentage du PIB, parce que dans 3 ans, si ça se trouve, on aura des chiffres complètement différents. C'est difficile de mesurer le PIB, pour avoir tout un débat là-dessus, mais clairement, se battre sur plus 0,1, plus 0,2 de différence, en fait, dans 2 ou 3 ans, on se rendra compte qu'avec les nouvelles révisions de chiffres, c'est peut-être complètement... ça n'a rien à voir, c'est complètement différent.
Ah bah pourtant, ça en fait des commentaires. Mais à quoi servent les économistes, alors, s'ils nous donnent des tas de chiffres?
Non, c'est les statisticiens.
Les statisticiens, d'accord.
Ils font un métier très difficile, d'ailleurs.
Aurélie Trouvé, votre chiffre. Merci,
alors,
Philippe Martin.
Alors, mon chiffre, parce que j'avais envie de parler de la nouvelle loi travail, donc mon chiffre, c'est celui du nombre de chômeurs supplémentaires sous François Hollande, qui est de 590 000 chômeurs catégorie A. Pourquoi j'en parle? Parce qu'il y a une nouvelle loi travail qui arrive et donc on peut se demander combien de chômeurs en plus avec de nouvelles lois de déréglementation des marchés du travail, sachant que François Hollande, avec Emmanuel Macron, ont bien préparé le terrain. Et donc, combien notamment va-t-il y en avoir grâce à la facilitation des licenciements économiques et combien également d'affaiblissement des conditions de travail à travers, par exemple, l'inversion de la hiérarchie des normes.
Aurélie Trouvé.
Ce sera peut-être une autre fois. Voilà.
Porte-parole d'attaque, sans surprise. Elmo Maud.
Alors, 3 ans, c'est selon la revue Nature, le temps qui reste pour appliquer les accords sur l'environnement pour rester en dessous des 2 degrés d'augmentation. Voilà.
Merci infiniment. Merci à tous les trois. Donc, Elmo Maud, dont on vient de parler de mondialisation, délocalisation, c'est la 5e édition. Hein, le petit repère, la découverte. Ouvrage fort précieux, je vous le recommande. Et également, Immigration, mythe et réalité. C'est plus récent, c'est paru cette année chez Fayard. 2017 également, cette crise qui n'en finit pas. C'est le mouvement Attaque qui dirige cet ouvrage au lien qui libère. Et je voulais profiter des toutes dernières secondes, vous remercier tous les trois, bien sûr, Philippe Martin, Aurélie Trouvé, El Mahmoud, pour cette dernière émission de l'économie en question. L'été arrive, donc comme nous l'avons dit, un grand, grand merci à mon équipe, Laetitia Coya pour sa réalisation chaque semaine. C'est Pascal Baudin qui est avec nous aujourd'hui, et bien sûr, un grand salut à Laurence, ma précieuse Laurence Genepin, pour la préparation, la documentation. Vous trouverez d'ailleurs bien des titres qu'elle a rassemblés à vous suggérer, dont d'ailleurs ce papier du Monde de Philippe Martin. Tiens, je ne l'ai pas recité, je crois qu'il est paru le 20 juin. Encore merci, un très très bel été à tous, et on vous retrouvera bientôt.